en arche en horlogos, kai horlogos en prostonteon, kai theos en horlogos. La traduction classique est « Au commencement était le logos, et le logos était avec le theos, et theos était le logos. » Une autre traduction standard est « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Le mot « logos » en grec signifie « mot »,« parole », ce qui exprime. Ce sont les gènes du programme génétique qui codent les ARN de structure et de fonction. Le mot « theos » signifie « divin », ce qui dirige. C'est l'ADN qui dirige et organise la vie, c'est-à-dire l'éternel, ou HM, ou le tétragramme Yud-E-Vav-E. Ainsi, au commencement était le logos, ce qui exprime les gènes. Suite à la fusion des gamètes, nous obtenons une cellule, une première unité de conscience. Tout commence de là pour un être humain. Et le logos était avec le théos. Les gènes sont dans l'ADN, ou encore, l'ADN contient les gènes. C'est ce qui dirige la cellule. Et le théos était le logos. Il était au commencement avec le théos. Avant la fusion des gamètes, il y avait de l'ADN. L'ADN devient de l'ADN. Toute chose a été faite par lui, car les gènes contenus dans l'ADN sont transcrits en ARN qui permettent de fabriquer les protéines. Et les protéines servent à fabriquer tout l'intérieur de la cellule, les membranes cellulaires, tous les organites qui transitent dans le sang et dans le corps. Rien n'existe sans le théos. Rien n'existe sans l'ADN. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, puisque les protéines fabriquent les cellules. En lui était Zoé. Le mot grec Zoé signifie vie, âme animée, ce qui bouge. Ce sont les ARN. Et la Zoé était cela, fosse des humains. Fosse signifie lumière, conscience, esprit, ce qui regarde et contemple. C'est la pensée. En Genèse 1.3, ou Bereshit 1.3, il est écrit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Une traduction littérale mot à mot est la suivante. Il aura dit Elohim, il apparaîtra une lumière, il aura apparu une lumière. En effet, le verset commence par le mot Vayomer, du verbe Omer, parler, dire, avec un Vav et un Yud devant la racine verbale. Le Vav sert à changer le temps, ça change un futur en passé et un passé en futur. Le Yud indique un futur. Donc Yomer veut dire il dira. Et si on rajoute un vav devant pour changer le temps, c'est-à-dire qu'on transforme le futur en passé. C'est donc un futur antérieur. Donc en français, Vayomer veut dire il aura dit. Il aura dit Elohim, Dieu, il apparaîtra une lumière. Et de même, nous avons le mot « vayei » qui est un futur antérieur également. Donc, par conséquent, il aura apparu une lumière. Le mot « lumière »,« or » veut dire « feu »,« éclat »,« nuée », »,« pluie », puisque la lumière est composée de grains de photons. Souvent, quand on parle de divinité, occidentale ou orientale ou tribale, on parle de quelque chose qui est imaginaire et qui n'a aucune réalité, lorsque ce n'est pas un leurre ou une diversion. Le mot Dieu provient de Deus, lui-même issu de la racine indo-européenne Deivos, signifiant « lumière du ciel », et de Dei, dont le sens est luire ou briller, comme une aura de lumière. Ce mot fut inventé par des administrateurs grecs et romains pour définir le Créateur en tant qu'être suprême, et désigne par conséquence Zeus, et donc Théos, fils de Chronos, qui est le temps de la vie. Les religions païennes et polythéistes étaient source de trop de problèmes, d'illusions, de conflits et de guerres, et donc de désordre. Alors il a été créé ce concept religieux dans le but de réduire les querelles et les inconnus, les dieux, à un seul et unique principe, le dieu. Mais une erreur fut installée dès l'origine. D'une part avec le maintien de la personnification mathématique ramenée à l'unité de ce qui est créateur, et d'autre part avec la confusion entre la cause, l'effet et la délégation, parce que les premiers versets de la Torah ne furent pas compris. En effet, la lumière n'est pas une cause, c'est l'effet inhérent à l'expression de la cause première. C'est l'expression protéique de la parole des messagers provenant de la volonté déterministe manifestée par les gènes. Il y a dans la Septante une confusion entre Elohim et Yud-Hé-Vav-Hé qui sont traduits de manière souvent disparate, aléatoire et sans cohérence par Théos ou Seigneur, puis Dieu et Éternel. C'est presque comme confondre un microprocesseur avec une mémoire et le logiciel. Le Théos de Jean est en réalité Yud-Hé-Vav-Hé, Hachem, l'Éternel, c'est-à-dire le code logiciel. Les évangiles parlent rarement d'Elohim, le processeur. Le Père fait en réalité référence au scribe Moshe, ou Moïse, qui a transmis la doctrine d'Abraham. La connaissance religieuse s'acquiert en trois grandes étapes, quelles que soient les coutumes, les cultures et les rites ou les vocabulaires. La croyance, inculquée aux enfants, la foi, développée chez les étudiants, et le savoir, acquis par la maturation des sacrements de l'instruction ou initiation. Jésus représente le retour à l'âme perdue après l'enfance à cause de la puberté. Il est l'archétype de celui qui fait Teshuva, grâce à l'éveil à la conscience de la conscience mise en lumière par l'onction qui est le Christ dévoilant le pouvoir du bien et du mal, devenant alors lui-même Christ par duplication des qualités de l'huile. Jésus, en grec Yesus, provient de l'hébreu Yeshua, contraction du nom Yehoshua. En Devarim 34.9, il est écrit « Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Une traduction littérale, mot à mot, est la suivante. Lorsque Yehoshua, fils de Noun, celui qui engendre, a accompli l'esprit de l'enseignement qu'a instauré Moshe, avec fragments de lui selon lui, ils auront entendu près de lui, les enfants d'Israël, ils auront travaillé selon ce qu'il a ordonné Hachem à Moshe. En Yehoshua 1.1, il est écrit « Après la mort de Moshe, serviteur de Hachem, Hachem dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. » Littéralement, « Il existera après moi, il aura cessé d'exister Moshe, il a servi Hachem, il aura parlé Hachem à Yehoshua, fils de Noun, il a été au service de Moshe pour la parole. » Le livre de Josué, qui fait suite à la Torah, n'est autre que celui de Moshe ayant accompli la Kabbalah de Pessah et qui est devenu le plus grand des prophètes, le premier Yesus, selon Devarim 34.10. Moshe lui-même ne pouvait pas entrer en Israël car il devait radicalement changer d'état de conscience grâce à la Torah, encore plus que lors de la sortie de Mitzrayim et de la traversée du désert. Comme la place de Moshe est dans le désert où se révèle la doctrine, alors il doit transmuer pour entrer en Israël, sa destination. tel qu'il est écrit en Matthieu 1 et 2, le Jésus est un héritier de David, héritier d'Abraham. Le mot grec « Jésus » « Yesus » signifie « sauvé par le Yah de Hachem ». Le mot « Yah » formé des lettres « Yud » et « est le feu par friction » ou la Kundalini, qui est le potentiel vecteur du champ électromagnétique vertébral qui s'exerce entre le sacrum et la base du crâne lorsque l'influx nerveux circule majoritairement non pas de la tête vers le bas, mais du bassin vers le haut, ce qui a pour effet de décharger le cerveau de son contrôle sur le corps et de connecter les organes au centre de commande. D'où la sensation de plénitude, d'unité, de liberté fusionnelle et de connexion divine. C'est un effet de l'énergie du Yud mise en mouvement par le rythme du souffle, par la respiration Shah. Ce n'est pas une cause liée au sentiment indéfinissable de joie, de félicité, de béatitude, de quiétude. On retrouve cette racine notamment dans l'expression « Alléluia ». « Alléluia » signifie « rendez louange à Yah »,« célébrez Yah »,« grâce à Yah ». Ce mot est formé des lettres « E, Lamed, Lamed, Vav, Yud, E ». La racine « E, Lamed, Lamed » signifie « briller, luire ». Ainsi, « Alléluia » signifie « briller lorsque Yah ». En Matthieu 17.1 à 3, il est écrit « Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » En Luc 9.29, il est écrit « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » Le corps humain est parcouru et est entouré par un champ électromagnétique qui est le résultat d'une arithmétique vectorielle et combinatoire de tous les micro et macro sous-champs générés par les diverses structures atomiques, moléculaires, tissulaires, organiques et neuronales du corps humain et de ses symbiotes. Plusieurs nerfs peuvent être la source d'une seule ligne de champ, et un nerf peut générer plusieurs lignes de champ. Il en est de même pour les cellules, les tissus et les organes. Les champs interagissent entre eux, se poussent et s'attirent, se croisent et se mélangent, s'additionnent, se soustrayent, se multiplient, se divisent, se combinent et se dissocient. Les lignes de champ résultent de l'arithmétique symbiotique de ces aimants biologiques dont l'état change avec le temps et avec les changements d'état. Les nadis sont le produit ou émanation interférente rétroactive de la biomécanique électromagnétique du corps humain, principalement nerveuse. Le cerveau est la zone où on mesure la plus forte intensité et la plus grande variabilité relativement à l'intensité du champ. La sourate numéro 2, au verset 22, mentionne « Allah qui fait pour vous ce qui tourne », c'est-à-dire les vortex des plexus nerveux parfois nommés système des chakras. Donc, « Allah qui fait pour vous ce qui tourne » comme un matelas, et qui fait la pluie, c'est-à-dire les nuées de la lumière, parfois nommées tissage des flux magnétiques. Donc, Allah qui fait pour vous ce qui tourne comme un matelas, et qui fait la pluie comme un vêtement. Ensuite, il fait sortir de celle-ci des fruits. Le mot arabe « fruit » veut dire « structure de forme magnétique ». Comme une forme d'onde. Donc, ensuite, il fait sortir de celle-ci, de la pluie, il fait sortir des fruits comme nourriture pour vous. Aussi, ne créez pas envers Allah des discordances alors que vous savez. Au verset 23, il est écrit « Et si vous êtes dans le doute, dans la confusion, au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors produisez un chapitre ressemblant à celui-ci, que vous direz être vos témoins de l'obéissance à Allah si vous êtes sincères. » Il est écrit en Révélation 1.19 à 1.20 « Écris les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Le mot église, du grec ecclesia, signifie assemblée ou rassemblement, et provient du verbe appeler ou commander. Ce mot désigne un grand plexus nerveux du corps. Ce mot est formé de deux racines grecques. Ek, à partir de, origine, ecclesia, qui signifie appeler. Telle est la fonction d'un plexus nerveux que de contrôler le corps afin de relayer les commandes du cerveau, ainsi que d'y renvoyer les retours d'informations. Les sept églises de la révélation sont liées aux sept lampes étoilées. Ce sont les sept chakras principaux du milieu du corps. Ils sont fermés par sept sceaux qui sont des serrures génétiques. Ils s'ouvrent en libérant leur force comme des chevaux. La nouvelle Jérusalem est le nouvel esprit de conscience cérébrale éveillé, harmonisé et libéré du mal, grâce à l'étude de la doctrine et grâce au fait de choisir de suivre ses enseignements. La tradition occidentale divise l'être humain en trois parties, habituellement, le corps, l'âme et l'esprit. La tradition orientale le divise également en trois parties, Brahma, Vishnu et Shiva. Ce sont les trois dantiens taoïstes, ou grands centres énergétiques. Ce sont les trois plexus nerveux majeurs. Brahma, ou Kapha, signifie « celui qui existe grâce au verbe et au savoir ». C'est la conscience. C'est le Xia et le Jing, le ventre créateur de l'énergie. C'est le corps ou système de défense d'un être et du peuple. Vishnu ou Pitta, qui signifie « celui qui est jaune et rayonne de feu ». C'est le souffle. C'est le Zong et le Ki, le cœur-poumon réparateur et conservateur. C'est l'âme et le système culturel d'un être et du peuple. Shiva ou Vata signifie « celui qui coud, suture » et soigne les plaies, c'est le docteur. C'est le Shang et le Shen, le cerveau constructeur et destructeur des illusions et des réalités. C'est l'esprit et le système médical d'un être et du peuple. Ces trois principes universels ne sont pas des dieux ou des choses métaphysiques, intangibles. Ces choses que des humains inventent pour détourner les autres humains de la connaissance et de la réalité. Les mythes servent généralement à mentir sur l'existence, et ils sont trop souvent de la désinformation fabriquant et modelant le marasme gluant du collectif humain. Vishnu est la lettre même, en hébreu, qui correspond à Ida et Pingala. La lanière gauche et la lanière droite des téphilines. C'est le mental irrationnel et le mental somatique. C'est l'émotion et l'effort. Shiva et Brahma sont le Shin et Aleph, qui correspondent à Sushumna. Les lanières nouées derrière la nuque et les boîtes du front et du cœur. Ils sont le feu et l'air. Les mitochondries et les centrioles. Dieu, Elohim, Allah, ou Créateur, ou quelques mots utilisés pour définir cette chose, et bien plus que tout cela. Le premier des grands secrets des swamis de l'hindouisme, êtres qui œuvrent à leur manière à la libération de l'illusion lorsqu'ils sont dégagés de toute obligation familiale, est la chambre du Dieu suprême. C'est une pièce dont le voile est découvert lors de la cérémonie du renoncement aux fruits des intentions et des actions, devenue modération sur le chemin de la vie, qui n'est plus soumise à l'imagination car celle-ci est maîtrisée sans hostilité et sans malveillance envers quelque créature que ce soit. cette pièce est vide. En Matthieu 1 et 2, il est écrit littéralement mot à mot depuis le grec. Il est désormais né Yehoshua, grâce à la maison rédemptrice de Yehuda, grâce au jour mémorable. Il est le nouveau prêtre. Voilà. Des mages du Levant sont arrivés à Jérusalem. Ils constatèrent arriver là, il est né le nouveau prêtre produit par les Juifs. Nous avons observé la loi pour que lui-même la diffuse, grâce à la clarification, et nous sommes venus pour cela. La maison de Yehuda, Juda, c'est la maison qui applique les commandements de Hachem, l'Éternel, Yud e Vav e. Le jour mémorable, c'est le baptême, c'est l'onction. Les mages du Levant sont ceux qui allument la lumière. Le mot grec pour « diffuser » a le sens d'éclairer, de dupliquer. Le mot « Bethléem » signifie littéralement « maison du pain » azim, faisant ainsi référence à Pessah, la Pâque, et à la sortie de Misraïm, la fameuse Égypte, le monde de l'ignorance et de l'esclavage des illusions et des symboles. Le mot Hérode veut dire héroïque ou mémorable. Ce n'est pas un roi. Ce mot indique que le jour de l'onction, qui est celui d'une naissance spirituelle, est un grand jour, puisqu'il est le deuxième plus grand jour après la naissance physique, et qu'il n'y en aura pas d'autre d'aussi important dans la vie d'un homme ainsi devenu roi. Mot grec qui veut en réalité dire « chef », au sens de « guide », « maître », qui selon le contexte de la narration est soumis à la doctrine, c'est-à-dire un prêtre ou un lévite. Le mot grec « mage » veut dire « scientifique », « sage », « juge ». Il ne s'agit pas d'astrologue ou de magicien d'un territoire géographique donné, au contraire, puisqu'il est précisé dans le texte que ces juges s'occupent d'encadrer le procédé de l'onction et le résultat, c'est-à-dire le don de la Torah. Ce sont les Juifs, et on se référera à la révélation de Jean pour les détails techniques du travail accompli. Plus précisément, ce sont des prêtres chargés de vérifier la validité et le résultat de ce travail accompli par les Juifs afin de produire des clercs à l'esprit clair, c'est-à-dire des Ariens. Le mot sanskrit « Arya », d'où provient le mot « Arien », signifie « noble, maître, dévoué, fidèle, attentionné, qui sert avec loyauté, au sens de « élu » et de « dirigeant », c'est-à-dire de clergé en termes de sélection, d'instruction et de fonction. Cela n'a rien à voir avec la race ou la nationalité, mais avec la faculté, avec l'éducation, avec la formation et avec un emploi dédié à servir le bien-être et l'évolution du groupe, du peuple et de l'espèce. Cela a donc à voir avec la survie. Messie ou Christ est le phénomène de l'onction, c'est-à-dire la réception de l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, le souffle de Elohim. Jésus-Christ doit ainsi se lire « Celui qui est sauvé par la main puissante de Yud e Vav e en recevant la lumière de la Torah » ou « Yud e Vav e a sauvé grâce au don de la Torah ». Barabbas est celui qui choisit le mal et agit contre la société. Jésus est celui qui choisit le bien et œuvre pour la civilisation. En Matthieu 27, le peuple juif veut libérer Barabbas qui a été mis en prison pour en faire un Jésus en le crucifiant. Ce mot grec veut dire « enlever l'égoïsme-convoitisme » grâce à la lapidation réprimande. Le mot « lapidé » est une traduction du mot hébreu « ragam » qui signifie « jeter ». Ragam est formé des lettres « resh » « guimel » « mem ». Resh veut dire la destruction. Guimel veut dire l'histoire. Et même veut dire le service. Ragam veut donc dire destruction de l'histoire transformée par le service dans la Torah. La loi du talion résulte d'une erreur d'interprétation du mot lapidé, car le sens du mot hébreu veut dire « jeter des pierres pour faire mourir ». Mais faire mourir quoi? Le mal et les abominations. Comment? Que veut dire jeter des pierres? Qu'est-ce qu'une pierre? Cela veut dire utiliser des pierres, des briques, des pièces qui s'emboîtent. Jeter des pierres, c'est assembler et publier des œuvres, ou plus généralement, c'est communiquer. Non pour la gloire des créatures, de l'argent, du pouvoir, de la haine et de la souffrance, mais pour la gloire du Créateur, de l'amour, de l'aide et de la compassion. Le but de la lapidation spirituelle, c'est restaurer et réformer le mental défectueux qui est la source des actes défaillants.